Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Quel genre de relation vous aviez avec votre père et parlez-moi de lui.
Il m'a émerveillée. Il était cultivé, il était intelligent.
Vous étiez un peu amoureuse de votre père? On a toutes été un peu amoureuses.
Alors,
de votre père, quand
oui, on l'est, mais enfin, ce qui est grave, c'est que moi, je le suis restée. Un mariage terriblement sous influence, puis ensuite... Un divorce et deux relations très impactées par l'influence de mon père.
J'ai quand même l'impression qu'il est encore là, qu'il me regarde, enfin qu'il est présent, qu'il est encore là. En fait,
il est éternel.
Qu'il est éternel, tout à fait. Je sais qu'il avait certaines passions, notamment la moto. Un garçon que je pourrais rencontrer qui fait de la moto, bricoleur aussi, évidemment, c'est un point bonus. Donc pour moi, un garçon doit être débrouillard comme ça, quoi.
Et alors à quoi ressemblent vos relations amoureuses?
À de l'échec. Bah, ça marche pas, en fait. Il manque toujours quelque chose.
J'ai toujours fait au mieux pour être un exemple pour ma fille.
C'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il est très protecteur aussi. C'est aussi ce que je recherche dans mes relations. Ce côté très protecteur, très « je suis là ». En grandissant, en faisant petit à petit ma vie de plus en plus, je m'en rends compte. J'ai besoin de l'approbation de mon père dans tout. C'est indéniable, je ne peux pas m'en détacher. Quand j'ai des doutes, etc., je vais aller en parler à mon père. En fait, mon père est la personne qui a la solution à tout.
Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à Ça commence aujourd'hui. En amour, nos invités ont une référence absolue, leur père. Elles ont toujours recherché un homme qui lui ressemblait, un homme surtout qui soit à la hauteur de leur papa. Leur vie sentimentale, du coup, n'a pas toujours été simple et c'est le cas de Marilyn. Bonjour Marilyn.
Bonjour Faustine.
Vous êtes venue nous parler de Léon, qu'on va découvrir tout de suite en photo. Léon, voilà donc votre père. Un très bel homme.
Un très bel homme.
C'est vrai, vous lui ressemblez d'ailleurs, il y a
un
le coup.
Peu,
ah oui, vraiment,
peu,
oui. Ouais. Quel genre de relation vous aviez avec votre père et parlez-moi de lui, quel genre
Alors,
d'homme c'était?
Plutôt une relation affectueuse.
Ouais.
Ma mère était plutôt une femme discrète, un peu effacée. Et l'affection, les câlins, c'était lui.
D'accord.
Voilà, donc, mais il était aussi, au-delà de ça, c'était un homme extrêmement autoritaire. Son autorité ne m'a jamais freinée dans les élans affectueux.
D'accord.
Et il m'a émerveillée. C'est un homme que je trouvais très beau. Il était cultivé, il était intelligent et il m'a éblouie pendant toute ma vie.
Vous parlez presque comme si c'était une histoire d'amour.
Ben, on peut le dire. On peut le dire, vraiment, on peut le dire. On peut le dire.
Vous étiez un peu amoureuse de votre père? On a toutes été un peu amoureuses
Alors,
de votre papa.
Oui, on l'est, mais enfin, ce qui est grave, c'est que moi, je le suis restée.
Mais oui, parce que c'est vous qui nous avez contactés.
Absolument.
Oui, vous avez vu notre appel à témoins où on demandait justement si des femmes qui nous regardaient avaient pu avoir leur vie sentimentale compliquée à cause de cette relation avec leur père. Ça a été votre cas,
Marie? Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Un mariage terriblement sous influence, dû à une éducation assez stricte, et puis ensuite... un divorce et deux relations très impactent l'influence de mon père.
Alors, on va parler de cette relation. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit peu connaissance avec lui, un peu plus connaissance également avec vous. Et puis, on va découvrir nos autres invités. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, je peux vous dire.
J'imagine.
On regarde donc.
Léon est un homme qui s'est fait tout seul. Après avoir perdu son père très jeune, il doit rapidement prendre en charge ses frères et sœurs, ainsi que travailler. Beau, intelligent et charismatique, il devient un chef de famille hors pair et gravit les échelons de l'administration française au Maroc. Plus tard, il arrive à Paris avec femme et enfants. Et la petite Marilyn grandit, éblouie par ce père impressionnant qui, passionné par l'image, passe son temps à la photographier. Bienveillant et exigeant à la fois, il suscite en elle une énorme admiration et un amour sans limite.
Oh, j'ai des frissons en voyant ces photos et ce commentaire qui colle tellement à cette histoire.
Alors, je vous présente ceux qui vont nous parler de leur Léon à eux. D'abord, Lucie qui est à mes côtés. Bonjour, Lucie.
Bonjour, Lucie.
Clara, qui est venue donc avec son papa tant adoré, Jérôme, et vous verrez qu'ils seront accompagnés encore tout à l'heure, encore davantage. Et puis Nathalie qui est avec nous. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Faustine.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, ça soulève beaucoup de questions psychologiques et celle qui va nous éclairer et peut-être vous conseiller également, c'est Natacha Espier. Bonjour, Natacha.
Bonjour, Faustine.
Et merci également d'être avec nous. À quoi ressemblait l'ambiance chez vous quand vous étiez petite, Marilyn? Vous avez grandi dans quel contexte familial? Vous me disiez un père autoritaire.
Alors, un père très autoritaire, oui, et une maman très effacée. Une maman plutôt au fourneau, voilà, en train de faire à manger, en train de faire le ménage. Maman s'occupait de la maison, n'avait pas trop son mot à dire. Oui. Mon père était un leader, un manager. Il aimait à recevoir la famille, il aimait être entouré, il aimait la musique, il aimait danser. Et il était au centre. Il arrivait à fédérer famille et amis autour de lui. Oui. Il était au centre.
Et vous, vous aviez quoi comme relation avec votre mère?
Alors, une relation assez distante, finalement. Elle s'occupait de moi, mais vraiment, les câlins, l'affection, j'allais chercher tout ça vers mon père. Et j'étais tellement en admiration que ce que je lui renvoyais, probablement...
Le flattait. Ouais,
lui faisait plaisir aussi.
Vous étiez en rivalité avec votre mère?
Ça, c'est venu un petit peu plus tard, oui.
C'est vrai, par rapport à votre père?
C'est venu un petit peu plus tard, oui. Moi, je savais que son amour passait par la réussite scolaire. Il fallait que je sois brillante. Donc, je faisais tout pour l'être. Et maman, à un moment donné, à l'adolescence, j'aurais aimé qu'elle disparaisse.
Ah oui.
Et quelque part...
Pour qu'elle vous laisse la place avec votre père.
Mais de toute façon, dans son comportement, elle a été assez effacée. Et c'est comme si, dans cette triangulation, elle avait laissé la place à cet amour grandissant entre mon père et moi.
C'est fou, parce qu'on dirait vraiment un amour...
Le premier objet d'amour... C'est pour le dire simplement, premier objet d'amour, c'est la mère quand même, pour le bébé. Et puis petit à petit, vers 3 ans, l'enfant s'aperçoit qu'il y a un autre objet amoureux, enfin que la mère aime quelqu'un d'autre, d'un autre sexe ou pas d'ailleurs, mais d'un autre sexe, et commence à se dire, ah bah mince, moi, je le prendrais bien ou je la prendrais bien.
Donc on est dans un complexe peu oedipien.
On est dans un complexe totalement oedipien qu'on peut parfois appeler électre dans le sens... si c'est la fille pour le père. Et il y a un moment où on sort de ce complexe d'Œdipe, c'est-à-dire que, pour vous résumer le truc, le papa dit « Ah ben c'est adorable, c'est extraordinaire, mais t'es adorable, t'es très belle ». Il a un rôle énorme à faire pour les psys disent narcissiser, mais pour rendre que la fille se sente bien, l'établisse dans son identité de femme. Mais il lui dit quand même, bon, t'es bien mignonne, mais c'est maman que j'aime, ou je suis amoureuse de maman. Et c'est ça qui va structurer. Le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de te dire, t'es magnifique, t'es hyper intelligent, mais c'est ta mère ou ton père que j'aime. Et toi, du coup, tu vas pouvoir te tourner vers quelqu'un d'autre.
Ah, donc quand j'appelle mon fils, mon petit amoureux, mon petit homme de ma vie, faut pas. Tant qu'il a 6 ans, ça va.
Ça va,
fait.
Voilà.
C'est ça. Oui. Quels sont vos plus grands souvenirs avec votre père?
Alors, le souvenir petite, je revois mon père dans son fauteuil en train de regarder la télé et moi, je me colle contre lui et j'essaie de rythmer ma respiration à la sienne. Oui. Donc, étant petite, j'ai le cœur qui bat plus vite. Donc, je la retiens, cette respiration, et je veux respirer à l'unisson avec lui.
Ah ouais. Et comment il vivait cette passion et ce regard que vous portiez sur lui?
Je crois que, contrairement à ce qui doit, entre guillemets, se passer, il ne m'a pas mise à distance. Quelque part, il m'a laissé venir à lui, je pense, sans se rendre compte des dégâts, et bien évidemment, que ça pouvait occasionner. Ah. Mais il m'a laissé venir. Et maman était... de la même façon, toujours en retrait, toujours occupée.
Tout le monde a laissé ça se faire. Oui.
Voilà, tout à fait. Et j'ai le souvenir aussi de balades ou même aller faire des courses. Il m'emmenait. Moi, j'étais folle de joie d'être toute seule dans la voiture avec lui, même pour aller au marché. C'était la grande sortie. Et j'ai le souvenir, alors, quand je repense à des sorties, que ce soit le zoo de Vincennes, que ce soit aller rendre visite à une tante qui habitait à Antony, eh bien, il avait souvent son appareil photo avec lui. Et hop, là, il me prend dans ses bras, il me colle sur le capot de la voiture et il me prend facilement en photo. Peut-être, mais Enfin, c'est pas peut-être, c'est évident. Moi, mais pas mes sœurs, quoi.
Ah oui.
Il a une attitude avec moi.
Et vous en étiez fière de cette différence qu'il marquait ?
Ça n'existait pas trop pour moi. Les sœurs étaient étaient plus âgées.
C'était
j'étais focalisée. En fait, c'est ça. J'étais focalisée. Oui. C'était lui et moi. C'était que lui et moi.
Oui, c'est le couple un peu amoureux. Hein. C'est ça, et malheureusement, vous n'avez pas... Alors, je ne sais pas aussi ce qui s'est passé avec votre maman. Peut-être que vous aviez aussi besoin de compenser quelque chose avec votre papa, parce que ce que vous racontez du cœur à l'unisson, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la mère, justement.
Alors, maman avait une histoire un peu particulière. Ayant perdu elle-même sa maman assez tôt, n'avait pas eu l'affection qu'elle aurait pu avoir, et elle ne savait pas faire.
Peut-être,
elle n'était pas, ni avec moi, ni avec mes sœurs, plus affectueuse que ça, mais j'ai été peut-être, moi, davantage en demande, je pense, et je suis allée chercher chez mon père ce dont j'avais besoin, et il me l'a rendu.
C'est ce que j'allais vous dire aussi, c'est à deux, cette relation, hein. C'est aussi au père de dire stop, c'est à lui. C'est
il
lui.
A été complice de ça aussi.
Un peu, mais peut-être pour, je ne sais pas, moi, il lui manquait peut-être quelque chose,
sûr,
ou c'est son histoire.
Ouais.
Mais oui, effectivement.
Il était fier de moi, il était très fier, et c'est vrai que tout au long de ma croissance, il m'a rendu une image valorisante, il m'a donné confiance en moi, j'étais une championne à l'école puisque j'étais brillante, j'étais jolie, donc j'ai entendu ça et c'est vrai que ça a fait de moi une femme assez forte peut-être, assez
battante. Vous avez confiance en vous aujourd'hui, vous êtes une femme qui a confiance en elle.
Oui, j'ai pu faire plein de choses parce que je n'ai jamais douté, j'ai même été, enfin je suis une femme assez audacieuse. D'ailleurs ma mère me disait, mais tu n'as pas un comportement de femme. Une femme, c'est plus posée, ça reste à sa place. Et toi, tu as un tempérament de guerrière. Et maman trouvait que c'était un peu décalé, que je n'avais pas le caractère d'une femme.
Et même s'il était dur et autoritaire, il vous valorisait néanmoins.
Oui, tout à fait. Après, bon, c'était un peu plus compliqué à l'adolescence parce que le manque de sortie totale.
Pourquoi ? Vous vous étiez cloîtrée à la maison ?
En dehors d'aller à l'école, nous n'avions pas le droit de sortir.
Et pourquoi ?
C'était relatif à l'éducation. Une fille ne
ça
sort
ne se
pas.
Pas.
Ça ne se fait pas. La sexualité est un sujet absolument tabou. On n'en parle pas. Dans la religion, la femme doit se présenter vierge au mariage. Oui. Donc on peut même se demander comment s'en sortir. Là, c'est une photo de mon premier jour d'école où il s'était débrouillé pour entrer. Il voulait absolument... me voir avec mon petit cartable.
Tout à l'heure, vous avez utilisé un terme sur lequel je me permets de rebondir, mais vous avez dit qu'il n'avait peut-être pas conscience des dégâts pour la suite. Cette relation dont vous nous parlez, qui a quand même été très constructive, c'est-à-dire que ça a fait, vous dites, une femme courageuse, audacieuse, qui est sûre d'elle. On parle suffisamment de faille narcissique ici pour souligner le fait que ça a pu vous vraiment forger un caractère épanoui.
Qui tire vers le haut, puisqu'il faut toujours être plus, plus, plus.
Néanmoins, parallèlement, ça compliqué, voire détruit vos relations à venir avec les hommes ?
Alors, détruit, pas vraiment, parce que j'ai fait sous son influence un mariage, mais en épousant un homme qui va être à l'opposé de ce qu'il est.
Comment ça, sous influence ? C'est lui qui vous a incité à vous marier avec cet homme ?
Alors, en fait, il a appris, j'avais 17 ans, il apprend par l'intermédiaire d'un voisin qu'un jeune homme m'a embrassée en bas de l'immeuble. Il était venu me raccompagner du lycée à la maison, il me fait un baiser. Et donc, le soir même, mon père me dit, voilà ce qu'on m'a raconté, est-ce que c'est vrai ? Donc je lui dis, oui, c'est vrai. Alors il me dit, ma petite fille, ce jeune homme, tu ne le revois plus jamais, tu me jures que tu ne le revois plus jamais, ou tu te maries avec lui.
Oh !
Et je lui dis,
c'est un peu radical pour un
baiser. Tout à trac, immédiatement, sans réflexion, je lui dis bien oui, je me marie.
Oh, alors que vous aviez embrassé un camarade d'école.
Alors, je n'avais pas tout à fait fait que embrasser.
Ah, c'est un petit détail qui nous manque quand même, Marilyn, dans l'histoire. Ce n'est pas totalement anecdotique. D'accord.
Alors, c'était un jeune homme qui m'avait séduite, qui avait beaucoup de qualités aussi. Et nous avions eu une relation, donc, sans être mariés. Et pour moi, je l'ai vécu de façon dramatique. Alors, la problématique pour moi était qu'il fallait absolument que j'épouse ce jeune homme, puisque aucun autre homme n'allait vouloir de moi dans l'état dans lequel j'étais. C'était impensable. Comment annoncer un truc comme ça à mon père, que je voulais absolument épouser ce jeune homme sans lui dire pourquoi? Alors là, il me tend la perche. Et c'est pour moi la façon de réparer, d'être dans la réparation par rapport à cette éducation que j'ai reçue.
Donc vous êtes restée combien de temps mariée avec cet homme?
Alors, je suis restée 29 ans mariée.
Ah bah oui, c'était pas une petite histoire.
J'ai épousé un homme assez extraordinaire en ce sens qu'il a compris que pour...
Avoir la fille, il fallait avoir le père?
Voilà, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Donc, il a fait tout pour gagner l'affection de mon père. C'est une photo de mon mariage où mon mari est derrière moi. Et moi, je m'accroche au bras de mon papa.
Ah oui, bien sûr.
Je me suis mariée, donc j'étais en terminale, on est en 76. Et mon mari va faire tout au long de notre mariage tous les efforts qu'il faut pour être validé quelque part par mon père.
Alors, il a fait quoi concrètement pour gagner sa confiance?
Alors, ils avaient ensemble cette passion de la photo. Donc, ils ont été sur ce terrain de faire de la photographie. Ensuite, mon père était un bon vivant. Il aimait bien manger. Donc, mon mari, qui était un homme du cru, bien, a appris à cuisiner les plats qui plaisaient à mon père.
Voilà. Ah oui, il était en entreprise de sélection.
Voilà.
Et ça a marché, c'est-à-dire qu'ils ont eu une relation positive.
Oui, mon père l'a vraiment accepté et l'a aimé vraiment. Oui, mon père l'a aimé. C'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué quand, au fil du temps... Bon, moi, j'ai eu 3 enfants magnifiques, mais je me disais, je suis encore jeune, je suis en train de passer peut-être à côté de ma vie amoureuse, même si ma vie est douce. Hein, et vraiment, de la même façon, mon mari faisait tout pour me rendre la vie douce, allant au-devant de mes moindres désirs. Mais
ça fait pareil,
il n'y avait pas d'étincelle.
Alors, nous, on ne dit pas étincelle.
Il n'y avait pas les papillons.
Non, on ne dit pas ça non plus, Marie-Line. On dit quoi? Merci, Clara. On dit chouchounouf.
Chouchounouf.
Vous n'aviez... Voilà. En tout cas, il n'y avait pas la petite flamme et elle s'est éteinte. Et alors, au bout de 29 ans, il s'est passé quoi? C'est vous qui avez tourné la page?
Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En 2001, mon père s'en va. Mon père décède. C'est terrible pour moi. C'est comme si je perdais, enfin, comme si je perdais l'homme de ma vie. Mmh. Voilà, vraiment, vraiment. Ça a été très, très dur. Je me suis d'ailleurs vraiment éloignée complètement de mon époux à ce moment-là. Et je suis restée dans le deuil un moment, m'habillant en noir, ne me maquillant pas. Mes enfants n'arrivaient pas à me redonner la joie de vivre. Je me suis demandé comment j'allais continuer sans lui. Mais en fait, même mort, il a été toujours aussi présent. Donc, j'entame une psychothérapie. Et au moment où ce psychothérapeute m'accompagne dans l'idée peut-être d'une séparation pour vivre autre chose, qu'il est possible de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, je fais une rencontre époustouflante. Un tsunami entre dans ma vie, un homme qui me bouleverse, qui me pulvérise, qui est beau comme tout,
que j'admire,
qui ressemble un peu à mon père, grand, des yeux clairs, voilà, qui est très charismatique. Et alors, je me sens comme un petit vermisseau à côté de lui, vraiment. Je me sens toute petite et j'ai cette admiration. Et je passe d'une vie qui ronronne, la vie avec mon mari, au grand 8, quoi. Il me fallait quelque chose de fort. Et avec cet homme-là, c'est ce qui se passe.
Bah alors, pourquoi vous n'êtes pas restée avec lui?
Alors, quelques mois après, je me rends compte que cet homme a une pathologie un peu lourde, qu'il est capable de souffler le chaud et le froid, et que je peux être une princesse et une moins que rien. Donc, les psys donneront un nom à cette pathologie. Moi, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi à vivre, les moments où je n'étais rien et les moments où j'étais maltraitée, entre guillemets. Je décide de me séparer.
Et alors, l'homme d'après, il y en a eu un autre?
Et 2 ans après, il y en a un autre qui apparaît dans ma vie et qui me transporte aussi. Besoin toujours de ce transport. Je vois notre psychologue qui sourit quand j'évoque ce besoin de transport amoureux. Et alors lui est un homme qui est aussi très bel homme, qui est issu d'un milieu modeste et qui est arrivé à force d'ingéniosité, d'intelligence, à faire son trou, à avoir une belle situation.
Ah, il y a une vraie similitude avec votre père.
Il me proposera le mariage et malheureusement, au fil du temps, je vais me rendre compte qu'il ne remplit pas toutes les cases. Et le fait est que je vais finalement décider, non pas de rompre avec ce fiancé, on se fiance quand même, on fait une belle fête de fiançailles, et je décide l'éloignement. Et un an après notre rencontre, je décide de partir en Bretagne et je lui dis qu'on peut imaginer une vie, moi en Bretagne, lui à Paris, se voir de temps en temps. Mais ça ne marche pas en vrai, ça ne marche pas du tout.
Ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas de mari breton.
Ça ne marche pas.
La relation à distance, en tout cas, est compliquée.
Voilà, c'est compliqué et alors, on va se séparer.
Est-ce que vous entendez, Natacha, dans ce que raconte Marilyn, je crois qu'il y a en plus des questions à vous poser, le fait que sa relation avec son père, puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, ait pu handicaper et freiner l'épanouissement avec, avec tous les autres hommes qu'elle a rencontrés?
Oui, bah, effectivement, il y a un moment où il fait, j'allais employer une expression un peu familière, mais où il fait le job, c'est-à-dire qu'il vous dit combien vous êtes belle, intelligente, et donc il vous narcissise, comme on va dire. Il vous donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous donne une bonne image de vous et que vous pouvez construire là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a avec aussi sa façon d'être, c'est-à-dire extrêmement autoritaire, il ferme la cage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de ça. Vous êtes obligé, pour continuer à avoir cette admiration, cet amour qu'il vous donne, vous pensez qu'il faut rester dans cette cage et vous n'en sortirez pas. Donc, c'est en ça que c'est la problématique que vous avez jusqu'à sa mort, au fond.
Oui, oui, absolument.
Et après, c'est compliqué pour vous de sortir de son modèle, puisque c'est ce que vous cherchez, finalement.
Le modèle, oui.
Il apparaît en filigrane
partout,
tout au long de ma vie.
Et forcément, les autres ne sont pas assez bien, puisqu'ils ne sont pas lui. Ça ne peut jamais marcher.
Ils sont vraiment insipides. Fades, ces hommes qui sont sur mon chemin, parce que j'ai quand même un peu de succès, mais vraiment, je me dis non, c'est pas possible.
Jamais, il n'y en a jamais un qui trouve grâce à vos yeux.
Non, la Bretagne a été un moment, depuis une douzaine d'années que je suis en Bretagne et 10 ans que je suis seule. Donc, il y a eu quelques rencontres, mais de longues périodes de solitude que j'ai mis à profit pour réfléchir, pour analyser, pour décanter peut-être tout ça. Donc, j'ai été beaucoup seule pendant ces 10 ans. Et ce que je voudrais, en effet, c'est être capable d'aimer aujourd'hui un homme pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il me rappelle.
C'est ça, c'est comment vous séparer, au fond. Hein. Mais quand on dit séparer, ça ne veut pas dire rompre le lien, bien évidemment. Votre père, il aura toujours une place en vous. Mais c'est symboliquement, on rompt le lien avec le père. C'est ça qui fait grandir. C'est-à-dire, il faut, vous allez me détester, il faut faire descendre le père de son piédestal. Parce que autrement,
oui, pour autoriser quelqu'un à venir, et pour
exactement
pas dans une comparaison.
Alors,
permanente.
Voilà. Ce qui est terrible dans cette histoire, et vous le dites très bien, mes sœurs ont réussi ça. Et autant pour moi, il est apparu comme un dieu. Autant pour mes sœurs, plutôt comme un tyran. Et moi, je dis que je l'ai adoré, il m'a émerveillée. Mes sœurs vont dire qu'elles ont été un peu démolies par lui, parce qu'il ne les a pas regardées.
Mais
il m'a regardée.
C'est ça qui est compliqué. Effectivement, ce n'est pas toujours facile d'être l'enfant préféré. On a l'impression que ça va être extraordinaire, mais pas du tout. Et il faut pouvoir se relever de ça. Il vous a vraiment emprisonné, sans s'en rendre compte, évidemment, de façon inconsciente, mais il vous emprisonne là-dedans. Et finalement, pour vos sœurs, qui peuvent tout à fait s'autoriser à se révolter contre lui, c'est beaucoup plus facile.
C'est la même chose. Je crois que c'est le même sentiment. Moi, j'ai grandi dans l'amour et dans l'adoration. Elles l'ont ensuite fait redescendre et presque, presque détester, mais on parle toujours d'amour quand on parle de...
Oui, il faut s'arrêter à faire redescendre, si je puis dire.
Mais si je peux me permettre, oui, bien sûr. Je pense qu'il y avait un petit peu d'excès aussi dans l'amour que Marilyn a reçu de son papa. Et je pense que l'excès nuit en tout. Moi, j'ai eu tout à fait l'inverse, donc je n'ai pas eu de papa. Et ça m'a handicapé fortement aussi.
Évidemment, et vous avez cherché quelqu'un pour combler cette absence.
Voilà, c'est ça.
Vous, Lucie, Marilyn nous dit en gros qu'elle cherchait quelqu'un qui soit à la hauteur de son père. Vous avez 21 ans, vous êtes toute jeune. Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui aussi, être à la hauteur de votre père, c'est un sujet pour ceux qui vont partager votre vie?
Tout à fait. Bah, l'histoire de Marilyn m'évoque énormément de choses. Il y a plein de points communs, il y a plein de moments où je me sens tout à fait...
C'est-à-dire, quels sont les points communs que vous...
Alors, mettre le papa sur un piédestal, sur le fait qu'il soit vraiment la perfection incarnée, en fait. Voilà, il est beau, il est parfait, il est gentil, tu ne trouveras pas mieux. Enfin, c'est... Voilà, la fille et le père, on a les mêmes yeux. Hein,
oui.
Pas trop, mais... enfin, voilà, c'est un homme en or. Enfin...
Vous dites au présent, d'ailleurs.
Parce qu'on en parle encore au présent.
Vous en parlez encore au présent aujourd'hui ?
On en parle tout le temps. Il est encore là, en fait. Enfin, il est là sans être...
Alors qu'il est mort quand vous aviez quel âge ?
Alors, j'avais 4 ans et demi, donc en 2005.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre père ?
Alors, on était... c'est vrai qu'on... Je vais en parler un peu au présent. On était chez ma cousine, du côté donc de ma maman. Et il avait vraiment cette âme de bricoleur et de perfectionniste. Il nettoyait la toiture. C'est le drame, c'est la chute.
Vous étiez là au moment de l'accident ?
Oui, il est mal tombé. Donc, au duo de mes 4 ans, je me souviens manger un gâteau qui aujourd'hui a une forte résonance en moi d'ailleurs. Et je vois ce corps par terre avec les adultes affolés. Les pompiers qui arrivent. Il y a une précipitation, on arrive aux urgences, je vois un corps au loin, donc du haut de mes 4 ans par la vitre. Qu'est-ce qu'il fait sous un drap blanc ? Je ne comprends pas. Mais ça ne marque pas... Voilà, je le vois. Ouais. Ce qui va marquer, ça va être du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus personne. Donc,
Vous avez des souvenirs avant avec votre père ?
Oui. Oui, j'en ai. Alors, avant son décès, on a fait un baptême d'avion. Donc, il adorait les avions. Et je me souviens qu'il était devant moi avec le casque, ma maman à ma gauche, et on survolait Limoges, du coup. Et donc, il y a ça, donc très important. Et souvent dans la chambre, on se retrouvait tous les trois. Donc, il s'amusait à me... Alors, je lui tapais mon doudou que j'ai là, qui est tout sang avec moi, et je lui tapais sur la tête.
C'est quoi ce doudou ? J'ai l'impression que c'est une chenille.
Non.
Ah non, pas du tout.
Bon, il a vieilli par rapport aux photos,
voilà,
en fait.
C'est ça.
Donc voilà. Mais et je lui tapais sur la tête, il me faisait une drôle de grimace. Ouais. Et donc le doudou qui est là, voilà.
Ah d'accord.
Et il me faisait une drôle de grimace et je glissais sur son dos après. Et donc une petite fille comblée, quoi. Enfin voilà, je rigolais. Voilà. Bon, là, il fait la tête. Je crois qu'il aimait pas trop les photos.
Et est-ce que vous avez le sentiment que sa disparition, et je poserai la question à Natacha aussi, a participé à ce que vous l'idéalisiez ?
Alors, pour reprendre un terme qu'elle a utilisé à la fin, c'est comme un dieu, déjà. C'est quelque chose...
C'est fort comme mot.
C'est très, très fort.
Ça l'a été avant ou c'est parce qu'il est parti tôt qu'il est devenu un être un peu supérieur ?
Déjà c'est assez superficiel aussi le fait que le mot Dieu, enfin c'est vraiment le fait que j'ai pas non plus de vécu avec lui, mais j'ai quand même l'impression qu'il est encore là, qu'il me regarde, enfin qu'il est présent, qu'il est encore là, en fait, qu'il est éternel, tout à fait. Même moi des fois j'ai encore cru, je me suis dit mais on fait une blague. Je suis sûre, demain, je me réveille, on me dit « Allez, Lucie, je te fais une surprise, il est là pour tes 18 ans. »
C'est faux, dans le déni, c'est une forme de déni ?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est... Enfin, non, c'est pas possible, Lucie. C'est pas possible. Donc voilà, c'est assez fort, mais...
Et alors, à quoi ressemblent vos relations amoureuses ?
À de l'échec.
C'est vrai ?
C'est pas... Oui, c'est...
Et vous faites le lien avec votre père ?
Tout le temps. Tout
Pourquoi
le temps.
Expliquez-moi.
Parce qu'il manque toujours quelque chose... dans les personnes que j'en compte, pareil, j'ai quand même quelques garçons avec qui on est en lien. Et non, bah, ça ne marche pas, en fait. Il manque toujours quelque chose. Alors, il y en a qui... J'ai envie, en fait, de tous les rassembler et de trier après et de construire la propre personne qui me conviendrait.
Oui, mais vous êtes toute jeune, hein, vous dites.
Oui, bien sûr. Voilà.
Heureusement, vous avez encore le temps. Mais ce que j'entends aussi, c'est que malheureusement, votre papa meurt. Vous avez 4 ans, pleine période d'Oedipienne aussi. Pas eu le temps de vous séparer ou de... Voilà, pas eu le temps de vivre complètement cette Oedipe. Donc ça, je pense que ça joue aussi, puisque finalement, il disparaît. Vous êtes en pleine période amoureuse de ce papa. Et puis, il y a quand même un aspect traumatique. Hein. Tout ce que vous évoquez, le goût encore de ce gâteau, la forme que vous voyez, je pense que ça cristallise aussi énormément de souffrance et que peut-être vous n'êtes pas sorti de ce traumatisme. Mmh. Et puis, ce que vous avez dit au début, c'est que tous les gens autour de vous, votre mère, j'imagine, mais aussi la famille, vous disent combien il était extraordinaire, cet homme. Bah, c'est compliqué pour les hommes autour de vous de faire avec cet homme tellement extraordinaire, mais qui n'est plus là. Et donc, je pense que ça vient figer quelque chose.
Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est savoir, vous avez des critères, et il faut que ces hommes qui partagent votre vie, ces hommes, ce n'est pas possible dit comme ça, mais il faut que les copains que vous rencontriez, vous reconnaissiez votre père en eux. Ou juste, ça a fait de vous quelqu'un de très exigeant ou vous cherchez vraiment votre père, même physiquement?
Alors, en fait, c'est un peu les trois à la fois, indirectement. Hein, c'est un peu ambigu, mais c'est un peu ça. Je sais qu'il avait certaines passions, notamment la moto. Ouais. Donc, un garçon que je pourrais rencontrer qui fait de la moto, évidemment, c'est un point bonus. Bricoleur aussi, il a quand même construit notre maison. Voilà.
C'est marrant, c'est des critères très précis. J'aimerais bien qu'il fasse de la moto.
Ouais,
pas mal.
Voilà. Les footballeurs et tout, non. Vraiment, les sports mécaniques.
Mais vous pourrez peut-être tomber très amoureuse d'un footballeur, vous savez.
Voilà.
OK.
Mais voilà, j'étais toute petite, donc c'est pour dire à quel point on était dedans. Quoi. Et pareil, il était très bricoleur. Donc la maison qu'il nous a construite, donc avec l'aide de ma maman, évidemment. C'est hyper fort. Donc, pour moi, un garçon doit être un peu débrouillard comme ça, quoi.
Vous avez peur d'être abandonnée?
Tout à fait. Oui, tout à fait. Chaque relation, en fait, c'est ce qui se passe, d'ailleurs.
C'est lié au deuil, ça.
Oui, c'est lié à ce... Oui, c'est ce sentiment d'abandon qui va revenir à chaque fois. Ça peut tout à fait être lié à un très gros deuil dans son enfance. Et je pense que vous êtes dans ce qu'on appelle une insécurité affective et vous allez avoir tout le temps peur d'être abandonné, même si cette peur est sans fondement d'ailleurs, et même si c'est parfois vous qui abandonnez.
Alors non, justement.
Vous n'abandonnez pas ?
Non, je n'ai jamais, c'est un peu idiot, mais je n'ai jamais le courage de partir quand la relation est stable, entre guillemets, parce que je ne me vois pas me mettre dans cette position-là de c'est toi qui pars. Alors ça,
c'est de la dépendance affective, ça, Natacha?
Probablement un peu, mais même s'ils ne vous plaisent pas complètement, même s'ils ne sont pas comme votre papa ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas jusqu'à...
Après, ça varie un petit peu selon des profils. Il y en a pour qui je vais vraiment écarter et je ne vais pas avoir de difficultés, même s'il y a eu un petit peu d'attachement ou autre. Mais il y en a pour qui c'est vraiment fort.
Alors que il y a une dépendance affective, je pense.
Elle a refait sa vie, votre mère?
Oui, elle avait rencontré quelqu'un avec qui,
ça n'a pas marché.
Lui-même n'avait pas d'enfant.
Et quel regard elle pose sur vos problématiques amoureuses et ce père que vous recherchez à travers les hommes de votre vie?
Alors, maman, on a un lien assez compliqué. On est à la fois fusionnelle et à la fois complètement différente. Donc, elle va souvent me dire que c'est moi le problème, vu qu'elle sait que... Vu qu'elle sait que je vais avoir quelques petites difficultés avec les garçons, je lui en parle des fois quand ça va ou quand ça ne va pas. On a quand même un lien fort aussi. J'aimerais pouvoir me détacher pour justement pouvoir faire ma vie comme je l'entends et pas comme les autres. Maman, elle va être tout le temps pareil dans cette idéalisation de papa. Et j'ai l'impression que si je ne trouve pas quelqu'un qui lui ressemble aussi, je peux quelque part décevoir.
Oui, donc.
Fait beaucoup de choses sur vos épaules. Vous mettez vous-même, Lucie, je pense.
Oui, je trouve. Hein.
Okay. Comment on peut aider Lucie? Quels conseils on peut lui donner pour qu'elle s'épanouisse plus?
Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faudrait voir un psy, qu'il faudrait voir quelqu'un. Alors, vous allez dire que les psys disent toujours qu'il faut aller voir quelqu'un, mais ça sert à quoi d'aller voir un psy? Ça sert à un peu d'abord avoir confiance dans la relation et dans cette relation, pouvoir déconstruire les schémas, pouvoir en changer.
Alors, pendant l'adolescence, quand c'était très compliqué, justement, parce qu'il y a eu rébellion, etc., hein, faut le dire, il y a eu un moment où le fait d'aller voir un professionnel a été inévitable. Et depuis l'adolescence, il y a eu une réelle progression. J'ai vraiment ressenti qu'il y a, il y a une très belle évolution de mon côté. Je ne suis pas du tout la même personne que j'ai pu même moi connaître. Et les professionnels ont été très performants.
Et vous savez, il y a des moments, c'est-à-dire on peut y retourner après, on peut s'arrêter. Et puis, on évolue dans sa vie et on se rend compte qu'on a peut-être besoin d'encore un peu d'aide. Parce qu'au fond, le seul critère, c'est la souffrance. Est-ce que vous en souffrez ou pas? C'est ça le critère pour aller voir un psy aussi. Est-ce qu'on souffre? Et si on souffre, on peut vous aider.
Okay.
D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez, Nathalie, en écoutant Lucie?
Mais je trouve que c'est très intéressant, les deux témoignages, aussi bien celui de Marilyn que de Lucie, parce que ça me touche évidemment parce que moi, c'est tout à fait le contraire que j'ai vécu.
C'est-à-dire, quel a été votre parcours à vous? Expliquez-moi quel lien vous aviez avec votre papa.
Mais je n'en avais pas.
Ouais.
Maman a vécu sa grossesse toute seule, elle a accouché toute seule.
C'était une histoire d'un soir, un amour d'un soir.
Oui, on peut dire ça,
comme ça. Vous n'avez donc jamais eu de lien, Nathalie, avec votre père biologique. C'est donc cette absence qui a conditionné l'ensemble de vos relations amoureuses. On va y revenir en détail avec vous, mais d'abord, on va regarder quelques images pour se plonger dans votre histoire, Nathalie.
Ok.
Nathalie voit le jour en 1962. Fruit d'une aventure d'un soir, elle grandit sans père biologique. La petite fille reçoit néanmoins beaucoup d'amour de la part de sa mère et de ses grands-parents qui participent à son éducation. Et même si sa maman retrouve l'amour quelques années plus tard, la jeune fille est timide et sensible et garde enfoui en elle le chagrin de ne pas avoir connu son père. Une absence qui va déterminer sa vie de femme.
Que savez-vous des circonstances exactes de votre naissance, de votre conception?
Oui, c'est ça. Mais en fait, maman, comme beaucoup de jeunes à son âge, avait une relation amoureuse.
Une aventure.
Une aventure, oui, voilà. Et n'ayant pas les moyens qu'il y a maintenant, j'ai pointé le bout de mon nez.
D'accord. Elle vous a tout de suite dit les choses, votre mère?
Non, on n'en a jamais parlé.
À quel âge? Mais vous le saviez?
Je savais, oui, je le voyais, puisque je vivais chez mes grands-parents avec maman toute seule. Donc, je savais, mais je ne me suis jamais posé de questions à ce sujet-là, en fait. Ce n'était pas un problème pour moi de vivre chez mes grands-parents avec maman.
À quel moment c'est devenu un problème? À quel moment vous êtes interrogée sur ce père?
Au départ de mon mari, de mon premier mari, lorsque j'avais 30 ans.
Et pourquoi à ce moment-là?
Je ne sais pas.
Là, c'est revenu.
Je ne sais pas l'expliquer. À ce moment-là, je me suis retrouvée sans ce mari qui joue un peu le rôle de père. Mm-hmm. Et je me suis dit, en fait, je viens d'où? Qui est ce père? J'ai eu envie de le connaître à ce moment-là.
Vous aviez des informations sur lui? Elle a pu vous le décrire physiquement?
Non, je n'avais aucune information sur lui. Je suis allée interroger une sœur de maman qui était... Elle n'avait pas beaucoup de différence d'âge. Et donc, elles ont vécu leur jeunesse en même temps. Et je suis allée demander si elles savaient qui était mon père. Elle m'a dit oui, bien sûr. Elle m'a donné ses coordonnées.
Ah oui? Ah ouais. Aussi facilement que ça, finalement.
Ah oui, tout à fait. Ça a été très, très simple.
Et alors, vous l'avez contacté, votre père biologique?
Je l'ai contacté. Je lui ai écrit.
Vous lui avez dit quoi dans cette lettre?
Je ne sais plus très bien, mais je lui avais dit que j'étais sa fille. Voilà, mais je ne connais plus vraiment, je ne me souviens plus vraiment du contenu de la lettre. Et donc, tout de suite, il m'a répondu. Il avait l'air très, très heureux et on a pu se rencontrer une fois ou deux.
Est-ce que ça a guéri? Est-ce que déjà, vous aviez eu des problèmes avec les hommes de votre vie?
Mais
vous cherchiez un père, quoi.
Oui, c'est ça. Le papa de mes deux premières filles, puisque j'ai quatre filles, le papa de mes deux premières filles que j'ai rencontrées quand j'avais 18 ans, était 15 ans plus âgé que moi. Et il m'a vraiment paternée. Il me considérait, d'ailleurs, il le dit toujours, il me considérait comme une de ses filles.
Est-ce que quand vous avez eu des relations, vous avez renoué avec votre père biologique, ça a apaisé vos relations aux hommes, de mettre un visage?
Non, absolument pas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte très vite que je ne l'intéressais pas.
Ah,
voilà.
Double peine.
Exactement. Donc, j'ai revécu un rejet, un abandon. Il voulait bien me voir, mais je devais rester cachée.
Pourquoi? Parce que lui, il avait une vie.
Mais il avait une vie, mais... La relation qu'il avait eue avec maman, c'était avant de se marier.
Oui.
Donc, ce que je n'ai jamais compris, c'était pourquoi il ne voulait pas faire la lumière sur moi,
Alors que c'était, vous étiez le fruit d'une histoire d'avant. Exactement. Là, c'est compliqué parce que Nathalie était en âge de comprendre et le vivre comme un véritable rejet. Tout c'est pas fait, le tout oui. de se dire qu'il ne sait pas, mais c'est autre chose qui vous dise non, non, tu restes dans
Bien
l'ombre.
Bien sûr.
C'est, quelle vision des hommes ?
Bah, quelle vision des hommes et puis, probablement ça répète peut-être ce que vous avez senti enfant. Parce que le problème aussi de ces secrets de famille, hein, de, quand on ne sait pas, on a l'impression que l'homme nous abandonne l'enfant et pas la mère. Et on se demande ce qu'il y a en nous qui fait suscite cet abandon. Et ça, c'est ça qui est très compliqué.
Et puis à cette époque, maman a vécu quand même sa grossesse comme une honte.
Bah oui,
honte c'est une honte. Ouais. Et ici, en retrouvant ce père, qu'est-ce que j'ai rencontré de nouveau ? C'était la honte. Il fallait surtout pas me montrer alors que je n'étais pas responsable de la situation.
Tout à fait.
Voilà. Votre deuxième mari, enfin le père de vos deux filles, celle d'après, était plus âgé aussi ?
Non, il avait 5 ans en plus. Mais il donnait l'illusion d'être quelqu'un de paternant. Donc, il donnait l'illusion d'être sécurisant, d'être protecteur. J'avais l'impression de me retrouver là dans une vraie famille. Mais quelques temps après, évidemment, cette image que j'avais, ça s'est dégradée.
En fait. Ça n'était pas finalement...
Ce n'était pas ça, c'était juste une illusion.
Est-ce que toutes nos relations amoureuses... sont issues de celles qu'on a eues, enfin pas de celles amoureuses, mais sont issues de notre relation avec notre père. Est-ce que c'est ça qui conditionne toute notre vie amoureuse ?
Bah, c'est le début quand même, c'est le premier homme. Oui. C'est cette première figure maternelle.
Paternelle,
la première figure de l'autre sexe. Oui, vous avez raison, c'est la première rencontre amoureuse. Et ça s'inscrit un peu comme une programmation. Et après, on va voir ce que ça va donner, effectivement. C'est-à-dire si ça se passe bien, s'il peut y avoir une séparation harmonieuse.
Et le rôle, et le père, vous le disiez, un vrai rôle à jouer.
Tout à fait.
Je dis ça pour Jérôme, qui l'envisage. Pour que sa fille puisse s'épanouir mentalement et qu'elle puisse
C'est le job du père de dire ok, t'es extraordinaire ma fille, mais je t'ouvre la cage.
Ouais, je pense que la maman met l'enfant au monde, si je peux dire, mais le père lance son enfant dans le monde.
Exactement.
Il lui ouvre les portes.
Bien sûr. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, sentimentalement ?
Nulle part.
Vous avez personne dans votre vie ?
Je n'ai absolument personne dans ma vie. Ça fait 10 ans.
Vous en avez marre ?
Non, absolument pas. Parce que j'ai appris à vivre seule. J'ai appris à... Donc, depuis 50 ans, je suis séparée. Je suis divorcée. Et sur ces 10 années, j'ai appris qui j'étais. Et j'ai appris à tenir toute seule. Parce qu'avant, en fait, être avec quelqu'un était vital. Oui. C'était vital pour moi d'être accrochée à quelqu'un. Donc, l'autre était un petit peu mon oxygène. Je ne pouvais vivre que si j'étais attachée à quelqu'un.
Non, on est un peu dans la dépendance affective,
absolument.
Là
aussi. Aussi, oui. Mais sauf que l'autre ne peut pas répondre de façon satisfaisante parce que vous lui demandez quelque chose qui n'a pas à vous donner. Vous lui demandez de réparer la relation paternelle qui n'a pas existé. Et lui, il ne va pas répondre à ça, forcément.
En fait, c'est une quête... insatiable,
c'est ça,
de recherche d'un père, mais le père biologique, il n'y en a qu'un. Donc, je pouvais encore chercher des années, je n'aurais jamais trouvé.
C'est surtout, vous auriez pu trouver un substitut de père. Mais s'il s'agit d'une figure sentimentale, ce n'est pas possible. On est toujours déçu, forcément.
Voilà.
Et c'est toujours douloureux.
Et donc, j'ai appris à vivre toute seule. Maintenant, je peux dire que je tiens droite toute seule. Je n'ai plus besoin de tuteur, je n'ai plus besoin d'être accrochée à quelqu'un. Je sais qui je suis. Et je suis très bien comme ça.
Mais si je peux me permettre d'intervenir, est-ce que justement, ce n'est pas maintenant, quand ce travail est fait, où vous êtes seule et en autosuffisance quelque part, et vous avez construit vos petits bonheurs comme ça dans votre vie sans avoir recours à quelqu'un d'extérieur, est-ce que ce n'est pas maintenant où justement le terreau est fertile pour construire une vraie relation.
Mais il faut encore qu'elle se présente. Vous n'allez pas la chercher, Nathalie,
non.
Cette relation.
C'est ça. Je ne le cherche pas. En fait, j'attends ce que la vie me réservera. Parce que ce besoin que j'ai eu pendant des années, tout compte fait, s'est révélé très destructeur.
Oui. Bien sûr.
J'ai été très détruite par toutes ces relations.
Je peux relever par rapport à ce que Nathalie dit. Dans ce besoin-là, tout à l'heure, elle a évoqué le côté protecteur du père. Et l'affection. Et alors, moi, dans les relations, c'est exactement ce que je vais demander, mais tellement, tellement, tellement. En fait, l'autre, ça fait fuir, en fait.
Oui, bien sûr. Donc, Jérôme,
oui.
Pas de pression ?
Non.
Je plaisante. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre? Parce que j'imagine que ça a un écho particulier dans le cœur d'un père.
Tout à fait. J'entends déjà que bon, il y a beaucoup de drames déjà qui ont été vécus déjà des deux côtés. De pas connaître son père, effectivement, ça crée un manque. De le perdre très 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 jeune également, ou d'avoir un père autoritaire à ce point-là. Voilà, je pense, je me reconnais pas bien sûr dans l'autorité.
Non, il y a une petite friction là.
Je pense qu'il faut un certain équilibre, effectivement. Tout au moins la relation que j'ai avec Lara, bien sûr, c'est que c'est le rôle du père, effectivement, de montrer, pour reprendre le terme que la mère met au monde et le père lance l'enfant dans la vie. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il y a deux poids, deux mesures. Je sais que j'ai toujours fait au mieux pour être un exemple pour mes enfants, pour ma fille. Par contre, moi, je n'ai pas eu d'exemple de père. Voyez. Donc, il faut en prendre et en laisser en fonction du caractère de chacun et ce que l'on peut en faire, effectivement. Oui. C'est comment on va vivre avec ce traumatisme pour certaines personnes. Voilà, c'est Claire, ça qui va définir.
Oui. Claire, après moi, présentez-moi votre père. Il a quoi comme qualité et défaut?
C'est quelqu'un qui est très entreprenant, qui prend toujours les devants, en fait. C'est le premier à dire on va par ci, on va par là. Il est très protecteur aussi, donc c'est vrai que ça me rappelle un petit peu les témoignages qu'il y a eu avant moi, parce que c'est aussi ce que je recherche dans mes relations, ce côté très protecteur, très je suis là, t'inquiète pas, si tu vas pas bien, je serai là, j'ai les épaules, tu crains rien. Donc effectivement le côté entreprenant, mais le côté aussi humoristique, voilà, on peut plaisanter, mais je suis là. C'est plutôt le « je suis là » qui est important.
J'ai l'impression que nous, donc les femmes, on est soit condamnées à chercher le père qu'on n'a pas eu, soit à chercher celui qu'on a eu et qui a été formidable, mais qu'en effet, nos relations amoureuses sont complètement conditionnées par ce premier homme.
Hein. Forcément, ça met l'emprise, ça met la marque plutôt que l'emprise. Il ne faudrait pas que ce soit une
l'empreinte.
Emprise.
Ouais,
voilà, ça. L'empreinte. Merci Faustine, c'est ça. Après, est-ce qu'on a franchement toujours besoin de protection?
Peut-être. Vous avez besoin de protection? Non, peut-être un peu moins, Marilyn.
Non, peut-être moins.
Après, la chose importante que vous avez dite, c'est qu'il y a un lien inconditionnel entre parents et enfants. Il y a un amour inconditionnel et qu'on doit pouvoir toujours compter sur l'amour inconditionnel de ses parents, que ce soit la mère ou le père. Et que c'est la même chose qu'on offre à ses enfants. Ça, c'est important. Est-ce qu'il faut toujours être protégé? Est-ce qu'on est des faibles choses et qu'on a toujours besoin d'être protégées?
Non, mais ne me disputez pas. Vous avez raison de me poser la question. Je connais beaucoup de femmes qui n'ont plus besoin d'être protégées. Ou peut-être que le privilège de l'âge, je ne dis pas ça pour vous, Nathalie, mais en prenant de l'âge, on peut justement s'affranchir de ce besoin de protection aussi parce qu'on arrive à se protéger nous-mêmes.
Peut-être, oui. Et du coup, avoir une relation peut-être un peu plus égalitaire avec son compagnon et pas en attendre la même chose. Ouais. Mais il y a forcément un deuil à faire de cette relation-là.
J'ai toujours voulu montrer à ma fille que j'étais présent. Pas présent, l'écraser ou être lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est juste pour lui expliquer que je serai toujours là si elle a besoin. Attention, c'est pas pareil. C'est pas lui interdire de voilà. Maintenant, j'ai été présent pour ses premiers pas quand elle a appris à faire du vélo. Je lui ai appris à faire du vélo, à nager, à marcher. C'était, il y a eu des étapes, comme après les problèmes de jeune femme, donc je lui ai toujours montré que j'étais là pour elle, que je suis son père et que malgré la distance qu'il y a eu, puisque à l'époque, elle habitait avec sa maman, donc il y avait vraiment une distance kilométrique. Mais malgré ça, on a toujours été proches. J'ai toujours voulu montrer que j'étais là.
Alors justement, on va regarder quelques images qui illustrent votre relation
avec
et votre belle complicité.
Depuis son plus jeune âge, Clara entretient avec son père Jérôme un lien très fusionnel. Partageant la même passion pour le chant, il ne manque jamais l'occasion de faire le show lorsqu'elle le rejoint dans son travail d'animateur.
Yeah.
mère et leur grande complicité font d'eux un duo qui ne passe pas inaperçu.
Ça me met dans l'embarras, je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLM, je sens qu'on m'en fait griller, elle m'en fait griller.
Mais derrière cette image festive, l'homme tient à garder sa place de père et impose à Clara une éducation fondée sur la discipline et le respect des règles. Pour la jeune fille, son père est un véritable modèle. Un modèle d'amour et de savoir-vivre.
Est-ce que vous avez l'impression que l'ombre de votre père peut planer sur vos relations amoureuses ?
Tout à fait.
C'est-à-dire ?
Avant, je ne m'en rendais pas forcément compte. En grandissant, en faisant petit à petit ma vie de plus en plus, je m'en rends compte. J'ai besoin de l'approbation de mon père dans tout. C'est indéniable, je ne peux pas m'en détacher, même dans ma relation amoureuse actuelle. Quand j'ai des doutes, etc., je vais aller en parler à mon père. En fait, mon père est la personne qui a la solution à tout. Même
des pressions.
Donc, c'est comme ça.
Clara, elle sait que voilà, si elle a une question, je suis en même temps l'homme qu'elle craint le plus au monde. Et en même temps, celui à qui elle peut tout dire, parce que je saurai toujours l'écouter et toujours la conseiller au mieux.
Avec voilà. Objectivité ?
Toujours.
Et vous avez besoin toujours. Qu'il valide vos choix amoureux, c'est important ?
Oui. Tout simplement parce que ce soit avant ou maintenant, je ne me verrai pas faire ma vie avec quelqu'un qui ne remplit pas les critères que mon père s'impose pour moi, en tout cas.
Alors, c'est quoi les critères qu'il s'impose pour vous ?
Il faut que ce soit quelqu'un qui sache bien parler. On n'est pas insultant, on n'est pas injurieux, etc. Qu'on ne me manque pas de respect, ça, c'est très important. Quelqu'un qui me manque de respect, ça ne rentre pas dans ma vie. Après, c'est plutôt au niveau de la tenue, que ce soit vestimentaire ou comportemental. Je sais que mon père n'accepte pas et n'acceptera jamais que quelqu'un qui soit avec moi se tienne mal, me parle mal ou représente quelque chose de mauvais.
Vous n'avez pas l'air d'accord. Vous trouvez que c'est un peu de pression,
non,
là ?
Non, c'est sa façon de vous présenter la chose. C'est un peu...
Il y a plus de rondeur que ça.
Voilà, voilà.
C'est comme ça qu'elle le vit. Si elle le présente comme ça, c'est aussi parce qu'elle le vit comme ça.
Disons que...
Ça ne fait pas de vous un tortionnaire, on vous rassure.
Non, je ne veux pas, parce que je ne pense pas être un tortionnaire. Moi, j'accepterai les choix comme jusqu'à présent, j'ai accepté les choix de ma fille. Maintenant, je lui dirai ce que j'en pense. Oui.
Après, elle fait ce qu'elle veut, surtout si elle m'obéit.
Voilà, non,
alors, pour l'instant, il vous plaît, celui qu'on va accueillir maintenant, son petit copain ?
Il est très bien.
Ah, donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire une présentation officielle sur le plateau.
Il est très bien.
Voilà. Il est très bien.
Validé.
On va accueillir Léo. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
2 ans.
Oh, mais c'est une très longue histoire. Voici Léo. On a le droit de l'applaudir, Léo, parce que c'est pas simple d'arriver comme ça. Ça va, Léo ?
Ça va, et vous ?
Est-ce que vous avez compris assez rapidement l'importance que le jugement du père de Clara sur votre relation ? Est-ce que vous avez tout de suite saisi qu'il fallait pas se rater au moment de la rencontre ?
Oui, je l'ai compris vite. Elle me l'a vite fait comprendre. Bon, après...
Elle vous a dit quoi ?
Bah, elle m'a expliqué que devant son père, il fallait être droit, qu'il fallait bien se tenir, avoir un langage
correct. Vous avez eu les chocottes un peu ?
Bah, oui et non. Oui, parce que bah, forcément, la première rencontre, c'est toujours l'aperçu de la personne, donner le premier point de vue. Mais non, dans le sens où je sais que j'ai eu une éducation droite et que je n'ai pas... une opportunité de me rater ou de paraître comme quelqu'un qui ne peut pas satisfaire aux besoins de Clara.
Oui, je comprends.
Clara avait besoin, voilà, elle a besoin de me présenter son copain. En l'occurrence, Léo, elle a mis du temps parce qu'elle voulait vraiment que ce soit sûr. Clara, ce n'est pas une fille qui me présenterait, elle ne m'a jamais présenté beaucoup de garçons, pas du tout. C'est vraiment...
Choisi.
Il faut qu'il soit... Il faut qu'elle ait confiance en lui. Il faut que voilà, oui. Pas pour moi, pour elle.
Et est-ce qu'ils ont des points communs les deux hommes de votre vie alors, Clara ?
Je pense que hormis lui avoir mis la pression pour qu'il plaise à mon père, j'ai mis la pression pour qu'il me plaise à moi en ressemblant à mon père. C'est-à-dire, enfin, ressembler.
Physiquement, on n'y est pas.
Non. Au niveau des cheveux, peut-être. C'est assez léger. Non, je pense que sur le côté, comme j'ai pu dire tout à l'heure, protecteur, etc., je pense qu'au début de notre relation, j'ai pu mettre une certaine pression à Léo sur le fait que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être protégée, j'ai besoin de sentir qu'il est là et qu'il sera là, quoi qu'il se passe. Du fait de mes relations avant lui aussi, où j'ai pu souffrir justement de cet abandon, etc., donc qui se réfère aux autres témoignages, j'avais besoin qu'avec Léo, pas que ce soit la bonne, parce qu'on n'est jamais sûr, mais voilà, que j'avais besoin que pour le présenter à mon père, je puisse savoir qu'il sera là et que ça se passera bien.
Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu ce père, Léo ?
Ben, dans la vie, je suis quelqu'un de timide, donc forcément, au début, j'étais plus dans l'observation. J'arrive pas à lancer les débats, à parler.
Donc là, vous êtes dans une souffrance absolue.
C'est un peu le stress.
c'était très rigolo la première fois, enfin en tout cas de mon point de vue, parce que mon père est quelqu'un de très observateur, surtout les premières fois. Justement, en fait, il observe ce qui se rapproche de sa fille, un peu comme un fauve, une proie. Et Léo est très timide et donc ne parle pas et observe aussi. Donc c'était très calme.
Ouais, c'était
ce jour-là. Et moi, je faisais un peu le tampon entre les deux.
Mais... Non, mais tous les pères, voilà, on aime sa fille, forcément. On veut savoir, moi, tout ce que je veux,
c'est
qu'elle soit heureuse.
Et vous lui avez dit, si tu fais du mal à ma fille, je te tue ?
Il lui a fait comprendre, il ne lui a pas dit.
Non, non, je parle beaucoup, j'explique les choses. Je suis pas dans le... Je ne m'énerve pas. J'ai élevé ma fille, je lui ai expliqué les choses. J'ai jamais élevé la voix, ça m'est arrivé, mais je veux dire, ça, c'est jamais des colères, tout ça. Oui. Je prenais ma fille face à face et je lui expliquais les choses, les yeux dans les yeux, pourquoi il ne fallait pas faire ça, ou si je disais non à quelque chose, j'ai toujours expliqué pourquoi, ça n'a jamais été non gratuitement. Oui. Il y a toujours une raison. Oui, j'ai toujours tout expliqué. Voilà.
D'accord.
Vous n'avez qu'elle ?
Non, j'ai mon fils aussi.
Mon petit frère.
Son frère de 17 ans, ouais. Qui a moins besoin de ma présence.
Plus besoin de celle de notre mère.
Voilà, ah, disons
que
c'est une autre ouais. Relation, voilà. Okay. Mais ils ont eu la même éducation, bien sûr, et voilà, c'est dans la
l'ordre
façon d'être, de s'exprimer, de se présenter, puisque c'est le paraître, hein, la première fois.
Je vous souhaite d'être très heureux, en tout cas, tous les deux.
Merci.
Et merci à tous d'être venus nous parler de vos papas respectifs avec beaucoup d'émotion, de lucidité, de sagesse. Merci, merci Natacha de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Je vous embrasse, passez une belle après-midi. On se retrouve demain, même heure.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous pensiez passer des vacances paisibles, mais votre séjour a tourné au cauchemar à cause d'un accident, d'une agression ou d'une catastrophe naturelle. Vous êtes l'un des sinistrés de cet été, vous avez tout perdu dans un incendie ou des intempéries. Pour notre émission, vous ou l'un de vos proches avez été victime d'un multi-récidiviste, déjà condamné à plusieurs reprises pour les mêmes faits. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
Alors je suis super contente d'avoir participé à l'émission, ça m'a permis vraiment de libérer une forme de poids que j'ai, donc voilà. Mais l'équipe est super et vraiment, je suis très, très contente d'être venue et d'avoir pu parler de mon histoire.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.